Bonjour la France, bonjour à tous, c'est Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au succès story coloré. Comme d'habitude, hein, on tourne dans la maison Kiss Kiss, donc, puisque Burnout est dorénavant partenaire de Kiss Kiss Bank Bank, la plateforme de crowdfunding dont un des piliers la lutte contre toute forme de discrimination à travers plusieurs projets dont vous pouvez prendre connaissance sur leur site. Comme d'habitude, on s'abonne à la page Burnout sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, donc, enfin bref, toutes les plateformes, un pouce en l'air, un petit commentaire positif. C'est très bon pour le référencement et merci à tous pour les messages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux et même les commentaires que vous laissez sur Spotify. Je les publie systématiquement sur la plateforme, donc ça aussi c'est important et merci beaucoup. Pour ce nouvel épisode, je suis très fier de recevoir une nouvelle personnalité qui est en pleine ascension et à mon avis on n'a pas fini d'en entendre parler. Entre spectacle, cinéma, théâtre, c'est un artiste complet comme j'aime les appeler. Il a été révélé au grand public dans la série numéro 1. Jusqu'ici tout va bien, mais croyez-moi, ce n'est clairement pas le seul rôle qu'il a interprété. Il est là aujourd'hui pour en parler au micro de Burnout, Redouane Lefly. Salut.
Comment ça va? T'as pas voulu allumer mon micro, t'as des commentaires. Ça commence très mal.
Parce que je sais que tu parles beaucoup, c'est
viens,
pour ça que j'ai.
Ouais, viens, on recommence.
J'ai éteint ton micro.
Et
comment ça va?
Ça va. Et toi?
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu oui à mon invitation. Et moi, très comme bien. Je dis tout aux auditeurs, je vais leur expliquer comment on s'est vu la première fois. Parce que ça, c'est vraiment un signe de Dieu, mais c'est la incroyable. Folie. Même aujourd'hui, j'y crois toujours pas.
C'est incroyable.
Alors, je vous explique, les amis. Je suis tombé sur son profil et j'ai fait le lien avec ton rôle dans la série Jusqu'ici ouais. Tout va bien. Je t'ai reconnu, on s'est follow, on s'est écrit. Et là, je me suis dit, alors moi, quand un artiste me follow, ça veut dire qu'il a accepté mon invitation, même si je ne l'ai pas demandé. J'ai fait, ah là là, il m'a follow back, c'est bon, pour moi c'est dans la poche. Bon, je t'ai quand même écrit, je t'ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de participer au micro de Burnout, parce que j'aime beaucoup ce que tu vis actuellement, c'est une vraie success story, ce que tu véhicules aussi pour les personnes issues de différentes diasporas, comme moi et comme une bonne partie des personnes qui nous écoutent. Tu m'as dit, pas de problème, lance-moi des dates et je vois en fonction des tournages et du taf. Je lui dis, ok, très très bien. Quelques jours après, je tourne, et je crois que c'est avec le comte de Bouderbala ce jour-là, j'attendais l'invité. Et alors, il faut savoir que la maison Kiss Kiss donne sur la rue. On est en plein centre de Paris, donc on voit les gens passer. Et là, qui je vois passer? Redouane. Redouane qui passe, nos regards se croisent et on a bugué.
Incroyable.
Non mais c'est ouf.
Non mais c'était vraiment c'était très drôle. Tu sais parce qu'il y a vraiment eu le truc de tu sais deux chiens qui se reconnaissent.
Ouais.
Je te connais.
C'est
toi.
Ça. T'es déjà tu t'es arrêté là c'est. Mais ouais moi je crois au destin, je crois au karma, je crois ouais. À tout ça et tant mieux.
Ouais tant mieux et puis c'est aussi l'énergie que tu véhicules aussi tu vois. C'est ça faut pas l'oublier. Je pense que la raison pour laquelle aussi ton podcast il fonctionne bien, c'est aussi parce que toi, c'est ce que tu renvoies et tout. Et quand tu m'as écrit, il y a plein de gens qui m'écrivent, tu vois, et il y a des trucs que tu as envie de dire. Pardon, mais je
j'ai pas le temps,
je suis pas sûr, frère, je suis vraiment pas sûr de toi. Mais de toi humainement, avant le truc, tu vois, parce que tu as envie de dire, je sais pas ce que tu vas me faire. Et toi, tu m'as écrit, il y a eu un truc direct de, ouais, je l'aime bien lui. Voilà, je l'aime bien. Vas-y, j'ai envie de le voir. Et on s'est vu alors qu'on se connaissait pas, on a pris un verre et tout.
Comme quoi. Bon, bah voilà, maintenant vous savez tout. Même si peut-être qu'ils vont se dire, mais attends, mais on n'est pas au PMU là, de quoi ils parlent?
Ouais, des ouf, on a une conversation de.
Tu sais, Redouane, comme le veut la tradition sur Burnout, on aime évoquer l'enfance de nos invités. Donc j'ai une première question pour toi.
Ouais.
Quand tu visualises le petit Redouane sans œufs, attention, ouais. En école, à l'école primaire ou au collège, à quoi t'aspirais à ce moment-là? Est-ce que tu te disais, ben moi plus tard, je vais être cosmonaute, archéologue, coiffeur, enfin j'en sais rien. Est-ce que pompier. Comme la majorité des petits garçons, ou pas du tout?
Non, je voulais déjà être acteur.
D'accord.
Ouais. Il y a eu un truc qui a. C'est assez fou, ça, quand même. Parce que les gens me demandent, et quand je leur dis, donc, mais non, mais attends, tu voulais être acteur. Mais... Et en fait, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Il y avait un. J'avais juste vu des acteurs, etc., que j'ai aimé dans des films, populaires en plus, tu vois.
D'accord.
Et je me suis dit, j'ai envie de faire comme eux, tu vois. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je savais juste qu'il y avait des gens dans une télé.
Gens qui passaient à la télé, c'est ce qui t'intéressait, toi?
Ouais, ça m'intéressait, mais c'est surtout, tu vois, j'ai eu la chance de grandir avec des de Funès, des, tu vois, des Jim Carrey, Denzel Washington, etc. Mais petit, c'était surtout Jim Carrey.
Ouais.
Et en fait, je l'ai vu, alors que vraiment, on n'est pas du tout dans la même énergie, tu vois.
Ouais, c'est pas
moi.
Le même.
Mais, et même pas le même cinéma, mais il y a eu un truc, je me suis dit, je veux faire comme lui, en fait. parce que je voyais l'énergie qui manait, tu vois, de la famille quand on regardait, etc. Je me suis dit, j'aime bien ça.
Ouais.
Et voilà. Et le petit Radouane, il voulait être acteur, quoi.
Donc direct, ça arrivait super tôt. Il y avait pas de doute, quoi.
Ouais. Franchement, ouais.
Et tu l'avais déjà dit à ta famille, parce que généralement les métiers un peu dits du show business, dans la musique, le théâtre, le cinéma, en tant que parent, on n'a pas forcément envie que nos enfants aillent dans cette voie-là. On préfère les schémas classiques, hein. Tu vas avoir ton bac, tu vas faire des longues études, tu vas avoir un travail traditionnel de 9h à 18h, etc. Est-ce que toi tu disais directement je veux être acteur, ou c'était un peu tabou?
C'était pas tabou, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était quand même très ouverte. Mais je l'ai gardé pour moi pendant très longtemps. Et j'ai commencé à le verbaliser, en fait, quand j'ai été au collège.
Okay.
Au collège, quand on m'a demandé « tu veux faire quoi au lycée ?», je dis « je veux être acteur ». Ouais. Donc autant te dire que ça s'est marré dans la classe, tu vois. Ma prof, elle m'a dit « non, c'est pas possible, quoi ». Et j'ai mis du temps à le verbaliser pour la famille. J'ai attendu le bac pour que, quand on m'a demandé « tu veux faire quoi ?», après, je dis « je veux rien faire, je veux pas faire d'études, je veux être comédien, acteur ». Et quand je l'ai dit à ma mère... Ma mère, elle a juste eu très peur, parce qu'elle ne, ah, tu vois, elle connaît ouais, pas.
Ça fait flipper.
Tu vois, ça fait flipper. Tu connais pas le truc, puis tu vois ton fils qui fait des études, enfin, tu vois, et d'un coup qui dit, je veux plus faire des études, je veux être acteur. Ouais. Donc elle a flippé. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est, tu vas pas y arriver. C'est pas possible. Mais pas parce qu'elle doutait de moi.
Non, en mode protectrice, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu vois, elle s'est dit, mais non. Et en fait, concrètement, ce qu'elle m'a dit, c'est, il y en a, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Toi, tu vas arriver après le bac, d'un coup, tu veux. Je dis, ouais. Et en fait, au bout de quelques mois, je suis rentré et puis j'ai travaillé direct.
Bon bah, comme quoi. Et alors, il me semble que tu as grandi à Rouen, ou dans la banlieue de Rouen. C'était quoi? C'était un quartier populaire
Quartier populaire, mais tu vois, j'ai eu la chance de grandir dans un quartier. Parce que franchement, c'est vraiment une chance.
Okay.
Mais c'était pas un gros quartier, tu vois, le truc
okay.
Où il y a 450 blocs, tu sais pas, tu vois. C'était un petit quartier, tu vois, avec... trois immeubles assez moyens, tu vois, mais c'était très populaire.
Beaucoup de diversité,
tu vois, ça vient de diaspora d'Afrique, de vraiment, ouais. Vraiment de partout.
Donc,
tu vois.
Vraie richesse pour toi.
Donc, vraie richesse. Ouais. Donc, c'était incroyable. Et je me souviens que, moi, c'est un peu l'image que je garde de mon enfance. Dans mon palier d'immeubles, il y avait donc, chaque côté du palier, t'as un appartement, et dans chaque famille, il y avait un mec qui était ultramarin, mais je sais plus d'où. Il y avait un Français, il y avait un Portugais français et il y avait nous, Marocains.
Ouais.
Et en fait, nos mères laissaient les portes ouvertes et l'étage, c'était la continuité de l'appart. Et en fait, on kiffait à jouer dans...
Ça, c'est le bon vieux temps.
Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et puis, ça frappait aux portes, tu vois. T'as besoin d'aide, tu pouvais demander. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, tu vois.
C'est sûr, ouais.
Donc, ce truc populaire, c'est... Moi, j'ai toujours vu ça comme une richesse incroyable.
Ah, t'as évoqué ta mère. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est la journée des droits des femmes. Tu m'avais dit que t'avais grandi avec ta maman et des sœurs.
Ouais.
Donc toi, j'imagine que t'es féministe, dans l'âme. C'est ou pas?
Franchement,
c'est une question très bête parce que pour moi, demander à quelqu'un est-ce que t'es féministe, c'est comme lui demander est-ce que t'es antiraciste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Mais
je te pose la question quand même.
Non, mais la question, elle est importante parce que. Des fois, je discute avec des femmes qui me disent « je suis pas féministe ».
C'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Mais parce qu'il y a une construction aussi chez elles où tu as juste envie de dire « en fait, je vais te mettre face à des amis à moi, eux, avec un « e » à la fin, et en fait, elles vont t'expliquer à quel point tu es féministe, mais tu ne le sais pas ». Et moi, encore une fois, j'ai eu la chance de grandir avec des femmes, c'est incroyable. Je souhaite ça à n'importe quel homme, de grandir qu'avec des femmes. Alors, faut pas nier les pères non plus, hein, tu vois, mais... Il y a un truc où chez moi, du coup, la construction patriarcale, c'est pas faite...
de manière classique.
Ouais, non, il n'y a pas de... J'ai grandi avec des femmes qui sont vraiment... Mes deux grandes sœurs et ma mère sont des femmes très indépendantes, très fortes, très, très puissantes, vraiment, qui n'ont jamais eu besoin de s'affirmer parce qu'elles étaient ce qu'elles étaient, tu vois, et qui n'ont pas eu besoin de... Ouais, dans une suraffirmation, etc. Et en fait, grandir avec des femmes comme ça, quand t'es un homme, bah, c'est ton exemple, en fait. Donc pour toi, c'est normal, tu vois.
Alors, c'est pardon, excuse-moi, c'est important ce que tu dis, parce que avec ce que les médias ont véhiculé de la femme maghrébine ou issue de d'autres diasporas africaines en France, ça donne l'impression que la femme maghrébine, c'est une femme soumise, qui n'a pas le droit de donner son avis, qui n'est pas indépendante, Alors que moi, je vous le dis, hein, cher auditeur, burn-out, c'est tout le contraire.
C'est tout le contraire.
C'est vraiment tout le contraire. C'est des femmes fortes, indépendantes, qui tiennent le foyer, qui font beaucoup de choses, qui... c'est les reines, quoi.
Ouais,
de
malade, ouais. On est officieusement, on est une société matriarcale. Tu vois. Les gens ne l'entendent pas. Et je peux comprendre, hein, tu vois, parce que chacun voit les choses par son prisme, etc. Tu vois, surtout en Occident. Mais tu vois, quand en France, des voix, en plus de jeunes femmes, hein, tu vois, comme Nisrine Slaoui, Rima Hassan, Rokaya Diallo, qui sont issues de la diversité, comme on les appelle en France, etc. et tout. Ah, ça tilte. En France, c'est pas possible. Ça comprend pas.
Comment c'est possible. Un nouveau mouvement là.
Ouais, voilà.
Les intellectuels et qui s'expriment bien, etc.
Les femmes comme Rachida Brakni, tu vois, elles ont une place dans les médias qui n'est pas à la hauteur de leur engagement.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire. Et il y a un truc où, en fait, on a envie de dire non, c'est pas leur endroit à elles, ça.
Ouais.
On peut pas leur laisser ces places, alors qu'elles sont hyper engagées. Du coup, il y a eu un truc où j'ai pas la même construction que beaucoup d'hommes. Je me reconnais pas, par exemple, dans beaucoup de constructions sociales de mecs du Maroc, marocain, etc. Il y a beaucoup d'hommes où j'ai envie de dire, en fait, non, ça se passe pas comme ça, frangin, en fait. Viens rencontrer Meros, tu vois, tu vas pouvoir leur parler comme ça et leur dire quoi faire, tu vois. Mais c'est beaucoup plus facile d'imaginer que les femmes issues de la diversité sont des femmes soumises, mais tu vois, ça, après, c'est historique, hein, tu vois. C'est pas à moi d'en parler parce que je ne m'y connais pas assez, mais il suffit de regarder l'image de la femme africaine, de la femme maghrébine, tu vois. Pendant longtemps, la colonisation a fait en sorte de les faire passer pour, tu vois, de faire des liens avec des images félines, tu vois, ou un truc suave, tu vois, de la femme orientale, etc. Et tout. Mais dès que
il y a un fantasme qui a été créé,
incroyable, tu vois. Et t'as envie de dire non, en fait, aujourd'hui, on va vous montrer ce que c'est, parce que nous, on n'est plus la première génération ou deuxième génération. On va vous dire comment ça se passe.
Ça me rappelle maître Nabil Boudi que j'avais reçu, qui avait dit ça aussi, que la nouvelle génération, ça va changer.
Ouais.
Enfin, on l'espère.
Ouais. Ça a déjà changé.
Radouane, ensuite, tu obtiens ton bac et là, tu décides de te présenter au conservatoire. Alors, moi, je vais te dire, le conservatoire, c'est une boîte noire pour moi, donc je suis très content que tu sois là devant moi parce que j'ai 100 000 questions. Est-ce que tu peux nous expliquer mais vraiment tout le process? Alors déjà, c'est quoi le conservatoire? Qu'est-ce qu'on y fait? Et comment t'as candidaté? Quel a été le processus? Est-ce qu'on peut appeler ça un processus de casting ou pas? Donc là, tu te débrouilles, t'as 10 questions en une, tu prends ton temps.
Écoute, c'est très simple. Après le bac, j'ai feuilleté le petit bouquin post-bac que personne ne regarde, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je trouve une école, parce que je veux faire du théâtre, donc il faut que je trouve un truc. Et venant de banlieue, j'ai jamais eu l'information qu'il y avait une école de théâtre dans le centre-ville de Rouen, tu vois. Donc j'ai trouvé le truc, je suis parti. Il y a une femme qui m'a accueilli qui a été extraordinaire. Et elle m'a juste dit, bon bah voilà, écoute, il faut remplir ce dossier. T'as une lettre de motivation à faire. Et ensuite, t'as 2 semaines de stage. Okay. Et pendant les 2 semaines de stage, il y a un début d'écrémage qui se fait. Et à la fin des 2 semaines, t'as une audition devant un jury de professionnels. Et j'ai dit, ok, moi j'ai des dossiers sur moi.
Balance tout.
J'ai fait les choses vraiment, plus jamais je l'ai refait. Ah waouh. Et je suis arrivé, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est parti quoi. Et donc on te propose, on te dit, voilà, tu dois choisir un texte du répertoire classique, un texte du répertoire contemporain, et puis tu fais un parcours libre, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux. Tu montres ton univers, quoi. Ton monde, ce qui te. Donc tu peux danser, chanter, peindre sur plateau, enfin tu fais ce que tu veux, t'as 3 minutes, tu vois.
D'accord.
Et donc voilà, je suis arrivé sur le premier jour de stage. Donc ça a été. Tu vois, rien que là, je souris, tu vois. Non, mais parce que c'est extraordinaire.
J'aimerais bien voir les images.
Non, mais c'est. Mais parce qu'il y a un truc de l'ordre du. À partir du moment où tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose qui était là depuis toujours.
Ouais.
Et tout à coup, tu commences à toucher un peu cet univers-là. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Adrénaline de fou. J'avais l'impression d'être chez moi. Je me disais, mais en fait, c'est ça. Alors que je faisais des trucs mais catastrophes.
Sérieux?
Oh, wow, laisse tomber.
C'est quoi? C'est que tu n'avais pas les codes parce que tu parlais de théâtre.
Rien. Vraiment, je n'avais aucun code. J'avais été au théâtre 2 fois avant, tu vois. Et c'était une fois en primaire et une fois au collège, je crois.
Les classiques, tu les avais déjà lus? Les Voltaire, les Molière, je ne sais pas quoi?
Non, pas du tout. j'avais lu le seul texte que je connaissais un petit peu, c'était Ruy Blas de Victor Hugo. Okay. Et Roméo et Juliette, mais de loin, tu vois. Donc je connaissais pas du tout, on n'avait pas étudié ça dans nos écoles, tu vois.
Ouais.
Parce que c'est les collèges et les lycées de banlieue, donc tu vois, ils vont très vite, tu vois, ils s'attardent pas trop, tu vois. Et voilà, donc il y a eu ces deux semaines de stage qui ont été incroyables. Et ensuite, il y a eu les auditions devant un jury, où il y avait justement notamment David Bobet, qui est un metteur en scène avec qui je travaille beaucoup, encore aujourd'hui, après 12 ans.
C'est un peu ton, je sais pas si on peut appeler ça un ange gardien, ton mentor.
C'est mon
quoi.
Grand frère théâtre, tu vois, c'est... Vraiment, quand on a vraiment cette relation-là, tu vois. Et voilà, j'ai fait les auditions, j'ai été pris. Et il y a eu un truc, je me souviens, justement, c'est David Bobet qui me disait ça bien plus tard. Il m'a dit, en fait, t'avais tellement envie, c'était impossible de te dire non.
Comme quoi,
ouais. T'as fait des choses, ouais, les refais pas.
T'avais la niaque, quoi.
Mais t'avais la dalle, quoi. Donc t'avais pas les codes, mais on s'en foutait. On se disait, lui, il va travailler. Et j'ai charbonné.
Ouais, mais c'est parce que t'es tombé aussi. Alors, il y a ton talent, évidemment, c'est indéniable, mais t'es tombé face à des personnes intelligentes et ouvertes d'esprit aussi.
Ouais, et qui se sont pas dit « Oh, pff, oh voilà. Il n'y a pas des codes, ça va être compliqué, ouais. etc. Et »
Ils rentrent pas dans une case.
Ils rentrent pas dans
faire.
Une case et ouais. tout. Et en fait, pas du tout. C'était incroyable. Je suis rentré dedans, donc j'ai été pris. Et
du coup, combien de temps de conservatoire ?
J'ai fait 2 ans et demi. J'ai été diplômé 1 an en avance.
Okay.
Et je suis resté encore une demi-année, le temps de partir sur la première création qu'on m'a proposée. Mais en fait, ça s'est fait. J'ai fait à ma première année, c'est important quand même ce truc-là, par rapport à mon lien avec justement le metteur en scène David Bobet, j'ai fait ma première année, au bout de quelques mois, on a bossé avec lui autour d'une masterclass, tu vois, un laboratoire où on essayait des choses, on a monté un spectacle en une semaine. Après ce truc qu'on a présenté, ce laboratoire qu'on a présenté, un mois après, il m'appelle, il me dit « Viens, j'ai des lectures publiques. » Et à la fin de l'année, il y a un metteur en scène, Thomas Joly, qui m'a appelé pour faire un début de spectacle avec lui. Je suis reparti en cours à la rentrée, ma deuxième année. David Bobet m'a appelé, il m'a dit, il y a un remplacement de rôle dans un spectacle.
Okay.
Et puis à la fin de l'année, il m'a dit, tu vas faire ma prochaine création. Donc ça a été très très vite pour moi. Pendant que j'étais à l'école, je travaillais déjà avec des metteurs en scène plus ou moins connus à l'époque.
C'est classique ça, d'alterner comme ça pendant le conservatoire
pas.
D'accord, donc c'est quelque chose d'unique.
J'étais le seul de ma promo à faire ça.
Bravo.
Ce qui a créé des... Franchement, c'était chaud. Il y a des gens de ma promo qui m'ont dit, il n'y a pas si longtemps, avec qui j'étais encore un petit peu en contact, ils m'ont dit, en fait, on vient de se rendre compte aujourd'hui à quel point tu as travaillé.
Ouais.
La notion
du charbon, toi, elle est importante pour toi.
T'es obligé. Il y a pas de... Moi, c'est ce que je te disais, moi j'ai grandi avec des femmes qui ont charbonné toute leur life, qui n'ont pas attendu qu'on leur donne ce qu'elles doivent avoir. Tu vois, ma mère, elle faisait 3 jobs en même temps, on la voyait pas, elle partait à 5h du mat, elle revenait très, très tard le soir. C'était ma grande sœur qui s'occupait de moi et de mon autre sœur, etc., plus ou moins, alors qu'elle a que 5 ans de plus que moi, tu vois.
Ouais.
Et y a eu un truc où, très vite, le rapport de responsabilité et de... En fait, si tu veux quelque chose, il faut que tu travailles pour... Pour moi, c'était normal. Donc tu travailles, tu charbonnes, et tu charbonnes beaucoup plus que les autres. Ça, c'est un peu un truc qu'on dit souvent, les enfants qui sont issus d'immigration, etc. Mais les gens ne se rendent vraiment pas compte, parce qu'il y a tellement de strates qu'on doit passer que les autres n'ont pas avant d'être à leur niveau, pour ensuite pouvoir continuer à charbonner. Et après, tu as la réalité du milieu professionnel, quoi.
Ça me fait penser, je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode, mais c'est pas grave, à cette notion de travailler 3 fois plus, 10 fois plus, 2 fois ouais. plus. C'était un film, Marie Gaumont,
ouais.
où il y a une famille, un médecin, je crois que c'était du Cameroun ou Congo, je sais plus, bref, qui viennent en France pour y vivre.
Ouais.
Et ils ont un enfant et ils préparent sa rentrée dans une école publique à Marie Gaumont. Et là, il y a le papa qui conduit, qui amène son fils à l'école. Et devant l'école, il se retourne et il dit à son fils, bonne rentrée et mon fils, tu vas devoir travailler 2 fois plus. Et j'ai beaucoup aimé la réaction du fils dans le script, il est bien fait. Parce que naïvement, je sais pas, il devait être en CM1 ou ouais, c'est assez jeune ou CE2, je sais plus. Ouais. Et il dit, mais pourquoi papa, j'ai un programme différent que les autres. Tu vois, ça veut tout dire.
Mais oui, ouais, non, mais c'est ça.
C'est fou. Hein.
Mais on a un programme différent que les autres. Vraiment.
Ouais.
Et c'est officieux, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je... Enfin, on le voit. Enfin, c'est même plus un secret de polichinelle. Enfin, tu vois, c'est un fait. On doit charbonner beaucoup plus que les autres.
Après, ils vont nous dire, vous êtes les ouin-ouin, la victimisation. Enfin, bref, on va pas rentrer là-dedans. revenons sur ta ton étape au conservatoire. Est-ce que moi je vois ça un peu comme la Starac, il y a les cours de danse. Ouais. Tu te rappelles la série Undo Stress?
Oui.
Pour les plus vieux. Oui. Les plus vieux comme moi.
Fame.
Voilà, ou Fame.
Ouais,
donc tu passes d'un cours de danse, de théâtre au cinéma où tu apprends ton texte, tu fais un peu d'opéra, enfin je caricature un peu. Est-ce que c'était comme ça ou pas du tout?
C'était un peu comme ça. Donc il y a un prof qui était mon prof à l'époque qui s'appelle Maurice Attias qui était notre prof régulier qui était là. Okay. C'était vraiment lui qui s'occupait de nous et on avait en plus de ça 3 heures de chant tous les lundis.
D'accord.
Ouais, pour comprendre comment la voix elle se travaille, etc. Au-delà de savoir chanter, c'est juste comprendre la respiration, etc., porter sa voix, etc. Et puis on avait, je crois, 2 heures de danse par semaine.
Quand même.
Contemporain et jazz.
Ok.
Pour apprendre à utiliser son cuerpo, tu vois.
Stylé.
Ouais, c'était très cool. Et c'est là où, tu vois, c'est marrant, c'est là où je me suis dit aussi, ouais, y a vraiment un truc qui m'intéresse là-dedans, quoi. Parce que mon parcours libre, quand j'ai passé les auditions d'entrée au conservatoire, c'était de la danse.
D'accord.
Je savais pas danser, j'avais jamais fait de danse.
Ouais.
Mon seul rapport à la danse que j'avais, c'était j'accompagnais ma sœur et ma cousine à leur danse classique quand elles étaient petites. Ouais. Et je te jure que ça, c'est une histoire vraie. Les gens, à chaque fois, me disaient, ah, vas-y, tu fais du Billy Elliot, etc. Vraiment, c'est vrai. J'y allais, ma mère me laissait avec elle, je les regardais. Je te jure, c'est ça où je te dis, tu vois, ma mère était déjà déconstruite avant son temps, tu vois. Qu'est-ce que tu vas lui parler de, tu vois. Et il y a eu et en fait j'ai commencé à regarder et ça m'a plu.
D'accord.
Et j'étais dans un coin et je me souviens le nom de la prof, je m'en souviens, Chantal. J'avais 5-6 ans,
un prénom de prof de danse classique.
Et en fait j'étais sur le côté et puis j'ai commencé à les imiter. Tu vois, je suis reparti un autre jour et puis j'étais sur le côté, je dérangeais pas. Puis je commençais à essayer de faire les mêmes mouvements, tu vois. Et la prof commençait à regarder, tu vois, très gentille, tu vois. Elle commençait à regarder, elle disait, ah, fais un peu plus comme ça et tout, tu vois. Donc je kiffais. Et quand j'ai passé les auditions d'entrée, j'ai dansé. Je savais pas danser. Donc j'étais dans le salon de ma daronne, tu vois, au milieu des sidérés, tu vois. J'avais poussé les tables, ma mère était mordeur, j'avais poussé les tables et j'avais dit à ma sœur qui avait fait de la danse classique, je lui ai dit, aide-moi, tu vois. Donc j'étais avec mon legging d'athlétisme.
Pour préparer le casting, ouais.
Pour préparer le truc. Puis j'étais en train de faire des entrechats, des grands jetés dans le salon. Ma soeur était là, elle me dit, ouais, ça c'est super. J'avais fait un montage de musique, je n'avais pas à faire de... Enfin, vraiment catastrophique. Non mais vraiment, je te jure. Et quand j'ai commencé à faire tout ça, je me suis dit, bah ouais, c'est ça qui m'intéresse. Donc il y a eu du chant, de la danse. Et après, il y avait des intervenants qui venaient pour faire des masterclass de 2-3 jours, une semaine parfois. Tu vois, ça pouvait être des metteurs en scène, des acteurs, des actrices, etc. Et parfois, c'était juste des rencontres de discuter pour comprendre ce que c'est le métier et tout. Donc, tu vois, il y avait vraiment plusieurs trucs. Quoi.
Et toi, c'est quelque chose qui te plairait de faire une comédie musicale à West End, au UK ou à Broadway, à New York, par exemple? Parce que j'ai l'impression que tu as un peu ce profil-là de pas touche à tout, mais au conservatoire, de ce que je comprends, ouais, on prépare aussi à ce genre de profil, non?
Écoute, on prépare ce genre de truc. Moi, je me suis rendu compte que c'était absolument pas pour moi.
C'est vrai?
Ouais, parce que c'est un univers que tu... Mais c'est comme quand tu sais, tu fais du cinéma et tu choisis quel cinéma tu veux faire. Tu vois, un cinéma d'auteur, un entertainment, ouais, si tu veux faire des
surtout
trucs
en France,
si...
une fois que tu commences, ouais, quelque chose, t'es dans, tu vois, une case...
C'est très dur, Miskin, pour les gens qui font de la télé. Tu vois, des films télé, c'est très dur d'aller au cinéma, oui, tu vois, alors que l'inverse est possible.
Parce que pour les humoristes qui font du cinéma, tu vois, je pense à Ahmed Silla, il s'est fait défoncer par les critiques.
C'est compliqué, c'est, ouais, galère, quoi. Donc franchement, sincèrement, non, mais je serais curieux de travailler cet univers-là.
D'accord.
Mais pas pour le jouer ensuite et être à Broadway, etc., ou à London, tu vois, faire des trucs à Piccadilly Circus.
Mamma Mia. Et est-ce que le conservatoire, c'est un coût? C'est élitiste ou pas comme structure?
Ok, là, on va rentrer dans le loin. Ouais.
Non, mais vas-y.
Non, écoute, sincèrement, c'est un coût.
Ok.
Mais c'est une école publique que j'ai faite. Donc, j'ai pas eu besoin pour. J'ai donc pas eu besoin
ça existe.
De. Donc, c'était une. Ouais, ça existe, ouais. Et moi, quand je rencontre des jeunes comédiens ou comédiennes qui veulent faire du théâtre, je leur dis, fuyez les écoles privées. Vous avez les mêmes partout en province, allez-y. C'est juste le temps d'une formation de 2-3 ans. Et ensuite, si vous voulez revenir à Paris ou à Marseille ou Lyon, vous reviendrez, quoi. Mais. Ça a un coût parce que quand tu es dans une école comme ça, tu dois aller voir des spectacles. Mmh. Quand tu es dans une école comme ça, tu passes beaucoup de temps. Moi, c'est une réalité. J'ai pas grandi dans le pétage d'oseille, tu vois, voilà, milieu très, très, très modeste. Donc, quand j'étais à l'école, je devais choisir. Enfin voilà, moi j'en ris aujourd'hui, tout va bien. Je trouve que c'est des trucs qui forment. Je devais choisir entre voir un spectacle à la fin de la journée avec la promo ou manger à midi.
Ouais.
Donc ça aussi, ça forge, tu vois. Il y a un truc où tu dis ok, bon bah là il faut que je fasse un choix. Est-ce que c'est vraiment ce métier que je veux faire? Bah franchement, tu vas pas manger aujourd'hui, tu vas aller voir ce spectacle.
Jeûne intermittent.
Donc tu vois, jeûne, tu choisis pas, tu fais ramadan avant l'heure, tu vois. Donc c'est à ces endroits-là où ça coûte concrètement, ouais. Où en fait tu dis bah contrairement à vous, moi je peux pas avoir 20 spectacles dans l'année. Donc je vais être très sélectif. Donc ça aussi, tu vois, ça crée une différence quand tu arrives à l'école, au conservatoire le lendemain et qu'on dit ben, tout le monde a vu le spectacle, ça commence à en parler, toi t'es dans ton coin, tu fais oh, ah ouais, il était bien ce spectacle, ok. Donc tu perds aussi des refs. T'as pas de refs, t'as pas les mêmes références.
C'est pas un truc de la bourgeoisie, ça, de se dire que pour être in, entre guillemets, il faut avoir la culture sur certaines. Sur certains arts comme le, la peinture, comme le théâtre, comme le cinéma d'auteur, ouais. Alors que j'ai l'impression qu'il y a un switch qui est en train de se faire où il y a une où il y a ce qui gravite autour de tout ce qui est urbain, mmh. Qui commence à être également pris au sérieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pendant longtemps on pensait que il fallait lire Zola, aller à la Comédie Française ou je sais pas quoi pour pouvoir pour pouvoir s'autoriser à échanger sur l'art.
Ouais, c'est,
et maintenant, oui. En fait, non. Il y a le hip-hop, il y a le rap, il y a les graffitis, je caricature encore. Mais je trouve qu'il y a un switch maintenant. Il y a moins de complexes qu'avant.
En fait, il y a moins de complexes qu'avant. Mais faut se poser la question de pourquoi, pardon. Je me suis éloigné du micro, mais
ouais,
m'en gueule pas, m'en gueule pas.
Après, les auditeurs disent, on n'entend rien.
on va faire de la CMR. La CMR, j'ai dit. Waouh. Il y a eu un truc qui s'est passé. Bon, après, il faut se poser la question de pourquoi.
Okay.
Parce que je pense qu'il y a aussi le milieu bourgeois qui a commencé à se dire « Oh, ça peut être intéressant. On peut commencer à miser là-dessus, sur le street art. »
Il y a des enjeux financiers, le nerf de la guerre, comme d'habitude.
Évidemment. Ouais. Donc ça a démarré. Mais tant mieux, parce qu'il faut que ça démarre quelque part, tu vois. C'est comme quand on dit « Ouais, mais attention... pour qu'il y ait un mouvement qui soit pris au sérieux, il a fallu qu'il y ait des extrêmes parfois, pas dans la violence, mais des extrêmes de femmes qui à un moment soient en révolution, etc. Et tout, pour qu'à un moment les suffragettes, tu vois, elles puissent voter. Quoi,
ouais,
tu
mais
vois.
Comment t'expliques une Faizagen, par exemple, qui est écrivaine, elle ne soit pas, quand tu vas à la FNAC ou ailleurs, dans le même rayon que la littérature française.
Ça,
mais c'est un truc de fou, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr, mais je pense que déjà à partir du moment où on arrêtera de mettre les catégories, tu vois, littérature orientale, littérature française, littérature, ouais. on mettra juste littérature, point. Oui. Un livre, c'est un livre. Et en plus, pardon, mais c'est écrit en français dedans. On parle pas de littérature orientale, c'est un livre. Je pense qu'à partir de là, on aura réussi quelque chose, quoi. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est un peu à l'image des requins, les baskets. Après, quand on était jeune, les requins, c'était les trucs de quartier. Aujourd'hui, tu vois des bourgeois, bobos.
Ouais, des bobos avec...
Même j'ai vu une vieille dame, tu vois, une fois, avec son long manteau, des requins, des Air Max aux pieds. Ouais. Je me disais, mais ça, il n'y a pas longtemps, tu portais ça. On traitait de Kaira, on disait
de Lascar,
tu vois. Et aujourd'hui, c'est à la mode. Donc, je pense que c'est un peu c'est un espèce de cycle où à un moment, l'élitisme. Mais c'est comme l'art, quoi. Qui choisit de dire cette peinture vaut 1 million? Qui choisit de dire à un moment cette Jordan ou cette paire de requins, elle coûte 300 euros, quoi. C'est ces questions-là qu'il faut se poser, je pense, tu vois, qui sont bien plus sous-jacentes et sneaky un peu.
Et complexes, ouais, c'est quoi ce
complexe, tu vois. Mais je pense que c'est juste qu'à un moment, les gens se sont rendus compte qu'ils n'auront pas le choix que de nous intégrer aussi avec notre culture artistique et de se dire qu'en fait, la culture, c'est aussi large qu'il y a d'individus sur Terre.
Oui.
Et que peut-être que toi, tu as des connaissances en opéra, en musique classique, en théâtre, mais par contre, rentre pas dans le domaine hip-hop, rentre pas dans le graph, rentre pas dans le style streetwear, etc., parce que je vais t'éteindre. Cette culture, je l'ai. Donc en fait, soit on discute, soit tu restes dans ton truc, je reste dans mon truc, mais du coup, on perd tous les deux, quoi. Donc je pense que c'est ça aussi qui a joué, tu vois.
Si on revient à ton CV, ton CV très très riche, il me semble que ton premier grand rôle, c'est dans Roméo et Juliette, c'est ça?
Le premier grand rôle?
Ouais.
Non, le premier grand rôle, c'était Peer Gynt, mais le premier rôle professionnel,
ok, t'en gardes un bon souvenir ?
J'étais en PLS. Sérieux ? Sur ce spectacle, mais vraiment, vraiment. Position latérale de sécurité, en boule sous la douche. Ah ouais. C'était vraiment. Moi, je sortais de l'école, j'avais 21 ans, j'étais un enfant. J'avais 2 ans de théâtre dans les pattes. Et j'arrivais, j'étais face à des acteurs aguerris, des actrices incroyables. J'étais avec des circassiens qui avaient fait le CNAC, qui est l'école internationale de cirque. Okay. Des danseurs hip-hop qui ont leur compagnie. Tu vois, vous envie de dire, ouais, je débarque, j'ai 21 ans, j'ai que deux ans de théâtre dans les pattes. J'ai énormément charbonné aussi, pareil, à cet endroit-là, mais parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé aussi où ça a été très violent. Vraiment, moralement, comme création. J'existais pas trop. J'avais pas trop mon mot à dire. Quand je parlais, on me disait tais-toi. Ouais. Tu vois, officieusement, tu vois, sans me le dire directement. Pendant 2 ans de tournée, où on a fait, je sais pas, 80 dates, j'ai eu très peu de retours sur mon travail. Donc j'étais un peu solo dans ma bulle, quoi. Donc ça a été très violent. Mais ça m'a aussi forgé. Dedans, je jouais Paris, tu vois, qui a un rôle plutôt mineur, tu vois. Mais assez important parce qu'il va jusqu'au bout, tu vois, c'est vraiment le pendant de Roméo, tu vois. Mais ouais, c'était très dur. Il y a eu un truc où j'ai dû me forger, me former tout seul.
Et c'est quoi ? C'est peut-être aussi parce que tu étais mal entouré ou pas entouré par un agent, par quelqu'un qui peut faire le lien, qui te...
Non, je pense que c'est... Il y a des codes des fois que les gens aiment bien garder, c'est genre c'est le petit, oui. Il a rien à dire.
Après, c'est dans le, j'ai envie de dire, c'est partout pareil dans le monde de bien l'entreprise sûr. Aussi classique.
Complètement.
Le junior, le stagiaire, malheureusement.
Ouais, complètement. Après, il y a des choses où, tu vois, les milieux de l'art, il y a un côté qui est assez viscéral dans le sens où tu donnes vraiment de toi. Okay. Quand tu, surtout moi, dans mon travail, moi, je me pose pas de questions. Quand je joue. Il y a plus de... Quand je pleure, je pleure. Ouais. Si je pleure pas aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas envie de pleurer. Mais sinon, si je pleure, je pleure.
Mais je vais te faire pleurer, t'inquiète. Vrai... Non, je rigole, imagine le
fou. Un vrai investissement. Non, mais il y a un vrai investissement. Du coup, c'est d'autant plus violent quand on annihile ta présence.
Ouais.
Quand on dit « Ok, les gars, on va sur le plateau, on prépare l'émeute » et que tout le monde est nommé, sauf toi. Ok, telle personne. Et puis tu dis,
c'était okay. À ce point.
Ouais, c'était violent. Franchement, c'était très dur. Mais ça participe, encore une fois, à ce truc de « Ok ». Bah, je vais te montrer, Frangin, que mon prénom, tu vas le dire.
Alors, on ne va pas raconter l'histoire de Roméo et Juliette, tout le monde la connaît. Par contre, je vais faire le lien entre l'histoire de Roméo et Juliette et ta culture. Ouais. Là où, dans ta culture, notre culture, où on est, y a beaucoup de pudeur. Roméo et Juliette, ça parle d'amour, ça parle de ça, tatati, tatata. Tu t'es pas dit à un moment, waouh, si mes sœurs, ma daronne viennent voir le spectacle, on n'a pas l'habitude de parler de ça à la maison, sauf si t'es issu d'une famille maghrébine un peu out of the box, où ouais. Tu pouvais parler de tout et que c'était pas tabou d'en parler, que t'avais pas cette gêne, ou non, justement.
Écoute, moi, j'ai fait partie de ces familles qui changeaient dès qu'il y avait un bisou à la télé.
Ouais.
Tu vois, déjà, ça répond.
Ok, ça répond à la question.
Mais... Franchement, ma mère a toujours été très ouverte. Mes sœurs ont toujours été très ouvertes. On a toujours eu des conversations, tu vois, qui étaient importantes d'adultes, etc. Et du coup, il y a eu un truc où, évidemment, que je me disais, il y a des trucs que tu peux pas faire, c'est pas possible. Évidemment que ma famille au bled, j'ai des oncles qui ont pu me dire, tu vois, indirectement, tu sais, à partir de maintenant, t'es un peu l'image de la famille, si deviens un personnage public. Ouais. Voilà, fais des choses qui ne vont pas nous porter préjudice. Et en fait, à un moment, tu as envie de dire, ça veut dire quoi, porter préjudice ? Selon qui ? C'est quoi le prisme ? Tu vois, c'est quoi le... Et moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où ma mère elle est fière de moi, je m'en fous du reste. Okay, donc, je discute avec elle des fois des projets. Je lui explique ce que c'est, tu vois. Et elle est full avec moi. Et même quand elle ne comprend pas, je lui dis, vas-y, fais. C'est ton travail, tu vois. Donc, j'ai... Incroyable, maman incroyable.
Oh bah, t'es super vraiment. Ça.
Ouais, je te jure. Non, mais c'est important parce qu'en tant qu'artiste, t'es obligé de t'épanouir. Ouais. Si tu commences à dire non à tout, t'es mort. Il faut dire oui au maximum de choses. Et après, il faut dire non à ce qui, toi, peut te mettre dans une situation d'embarras, préjudice, où à un moment, tu peux te dire, là, j'ai l'impression que c'est moi, moi, ma personne qui est pas à l'aise. Là, il faut dire non.
On va faire un saut dans le temps parce que je voulais faire le lien entre Roméo et Juliette et un autre de tes projets, c'est Don Juan.
Ouais.
Mais c'est fait exprès, toi, les rôles que tu choisis, t'es Roméo et Juliette, Don Juan. Il y a quand même une vraie ligne éditoriale, oui, enfin, vrai lien.
Oui, il y a un vrai lien, mais Roméo et Juliette, mais même avant Don Juan, il y a eu Peer Gynt qui a été.
Ouais.
En fait,
Peer Gynt, c'est vraiment le rôle qui t'a. C'est ton vrai
c'est
rôle.
C'est le volcan. Ouais. C'était le volcan pour moi, vraiment, mais dans tous les sens du terme.
C'est grâce à David...
David Bobet.
C'est qui grâce à lui aussi.
Ouais, c'est lui, ouais. Celui qui m'a rencontré quand j'étais au conservatoire de Rouen. Écoute, c'est, moi, je choisis de dire oui ou non. Mais je j'ai pas là encore la possibilité de regarder un metteur en scène droit dans les yeux et lui dire « Tu peux monter ce spectacle parce que j'ai envie de jouer ce rôle. Oui. » Tu vois. Mais par contre, j'ai la chance de pouvoir choisir mes projets. Dans Juvian, il y a eu un truc, la raison pour laquelle je l'ai accepté, c'est parce que la vision qu'avait David Bobet, le metteur en scène, sur ce projet, elle était à l'extrême opposé de ce qu'on peut voir en général sur ce rôle, qui est celui d'un personnage très flamboyant, tu vois, très beau, très tu vois, intelligent, etc. Lui, il avait envie de faire l'opposé. Okay. Un mec qui est en dépression, très sombre, très violent, dark, ouais. Un très 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 dark, qui est tout ce que la société aujourd'hui condamne. Peu importe ta culture, tu vois, dans un truc de qui est raciste, grossophobe, glottophobe, enfin vraiment tout ce qu'on peut misogyne, tout ce qu'on peut détester aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, ça m'intéresse, parce que si on veut traiter et se poser la question sur la société dans laquelle on est, alors on est obligé de traiter les rôles comme ça pour avoir un regard dessus, une réflexion dessus. C'est ça qui m'a fait kiffer sur le rôle. Mais
t'en gardes un bon souvenir.
Ouais, c'est franchement c'est très sombre à faire. C'est incroyable de jouer un méchant, une ordure.
Est-ce que je souris, hein, mais je pense à Isabelle Adjani. Tu sais, dans les caricatures, les sketchs qu'il y a autour d'elle, quand elle sort de scène et puis elle garde son costume à la maison où elle n'arrive pas à se détacher du personnage. Est-ce que toi, quand tu rentres, tu dis putain, Don Juan sort de ce corps.
Non, franchement. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que une fois on faisait une rencontre avec avec le public à la fin de la représentation, ouais. On discute du spectacle, etc. Et puis il y a un mec qui nous dit. Un mec qui pose la question, il dit écoutez, moi je mets un peu plus de temps parce qu'il faut que je me douche parce que je suis vraiment très sale à la fin du spectacle, j'ai plein d'argile, de sable sur moi et tout.
Ouais, j'ai vu les photos. Ouais.
Et il y a un mec qui nous dit bah, le metteur en scène disait que vous êtes l'extrême opposé de Don Juan, vous n'avez rien à voir, etc. Et tout, mais comment on fait du coup pour jouer un rôle comme ça? Et je lui disais bah, déjà, c'est parce que je suis l'extrême opposé de Don Juan que je peux jouer ce salaud. Et c'est parce que je suis à l'extrême opposé de lui que pour moi c'est très facile de faire ok, c'était un spectacle, c'est fini, ciao.
Ouais.
Mais la chose qui m'a, c'était la première fois que je le verbalisais quand j'ai répondu au mec, je lui ai dit en fait la seule chose qui est liée à moi chez Don Juan et inversement, c'est la colère. Quand on est en colère, quand on grandit où j'ai grandi, comme j'ai grandi, quand je suis ce que je suis et ce que je représente pour la société et ce que la société me renvoie, je peux être que en colère. Donc cette colère là en tant qu'artiste, on l'utilise pour en faire quelque chose de beau. Donc on fait de l'art, quoi. Et voilà, mais dans Juan, j'arrive à... C'est Pergin, ça a été plus compliqué.
Pergin, ouais. C'est combien de temps de tournage? Parce que ça aussi, c'est un vrai succès.
Combien de temps de tournée? Combien de représentations on a fait? Pour Don Juan, tu veux
dire? Non, par contre, le film Pergin.
Pergin, c'était un spectacle.
Un spectacle, pardon, ouais. Ok. D'accord, je crois que c'était un film.
Non,
j'ai tout fait.
Non, mais nul.
Non, je pensais que c'était un film.
Non, c'était un spectacle de théâtre. Ah, c'était un spectacle de théâtre.
D'accord.
Pergint, on a tourné pendant 5 ans.
5 ans ?
Ouais. Oh. On a eu la chance de le jouer en Norvège, de tourner vraiment dans des endroits incroyables, etc. pendant 5 piges. Ouais. Et encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour tenir ce spectacle.
Wow.
Où j'étais, ça durait 3h40 et j'étais non-stop sur le plateau. Je ne sortais jamais. Jamais.
T'en gardes quoi comme souvenir ?
Une
galère.
Une galère. Non, franchement, je te jure, ça a été très violent, pour plein de raisons. Pour être sincère et honnête avec toi, parce que je pense que c'est aussi important. Je sais pas s'il y a des jeunes auditeurs, acteurs, actrices qui entendront ça, mais à la base, je devais pas jouer Pergint. Je jouais d'autres rôles dans le spectacle. Que je jouais pas le rôle titre. Et Pergint, il est considéré comme le rôle le plus difficile, un des plus difficiles du répertoire classique. Et généralement, il est donné à un acteur qui a la quarantaine, tu vois. Ouais. Ou sinon, il est donné à un jeune acteur et un plus expérimenté. Et il est divisé en deux.
D'accord.
Le Pergint jeune, puis la deuxième partie, c'est le Pergint plus âgé, ouais. Tu vois. C'est très rare qu'en France, un acteur ait fait tout, tu vois, qui porte tout le spectacle. Et quand j'ai dû faire la création de Pergint, ma mère quittait l'appartement. Alors c'est très important. Ma mère quittait l'appartement dans lequel on vivait depuis 28 ans. parce que j'avais 28 ans quand j'ai fait le rôle. Donc j'étais en train de vider l'appartement, de redécouvrir des choses de quand on était petit, tu vois, les petits trucs, réparer les poignées cassées, etc. Et tout. Et pendant ça, la journée, quand je faisais pas ça le soir, la journée, je répétais l'histoire d'un jeune garçon qui vit seul avec sa mère, qui a pas d'argent, qui est considéré comme l'autre dans le village où il est, qui est détesté, que tout le monde renie, etc. Et tout. Et du coup, il y a eu un truc, ça a fait ah, c'est bizarre, ça me pique un peu. J'ai un peu l'impression de me reconnaître là-dedans. Quoi. Ouais, donc tu fais des connexions. Et vu que j'ai un peu ce truc, moi, de chercher en moi ce qui peut faire écho pour être sincère aussi dans le plateau, sans être dans un truc, tu vois, où je me flagelle et tout, ouais, tu vois, mais pour faire des vraies connexions, mais tout sincère, il y a eu un truc où tout à coup, le réel de la vie concrète et la fiction de ce qui se raconte sur le plateau, plus moi qui fais un mix, ça a été vraiment un volcan. Donc ça a été très dur. Vraiment.
T'as appris.
Ouais, t'apprends de fou. Et de toute façon, ça fait partie du jeu. Et heureusement, t'es entouré. Sur Perkins, il y a eu des gens absolument formidables avec qui j'ai travaillé, qui ont humainement aussi été présents pour moi. Ma famille, comme je t'ai dit, elle a toujours été là pour moi. Donc je pouvais communiquer avec eux. Et mes amis aussi, tu vois. Donc,
et ça t'arrivait souvent dans tes spectacles d'oublier ton texte?
Ça m'arrive, ouais.
Ouais, comment tu fais dans ces cas-là, dans ces situations?
Moi, j'ai un peu la main. J'adore ces moments.
C'est vrai?
Il n'y a pas plus sincère que ces moments-là. Quand t'es en PLS, t'es en PLS. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de. Non, tu bredouilles. Après, j'ai un peu une règle que je dis un peu à tout le monde, c'est si j'ai un trou de texte, laissez-moi. N'essayez pas de me donner le texte, n'essayez pas de me sortir de la galère. Laissez-moi en galère.
D'accord.
Parce que ça se trouve, on va encore plus se mettre dans la merde, ouais. Vous et moi. Laissez-moi, je vais trouver. Donc il y a des fois où t'as des vrais, t'es censé enchaîner, puis il y a des vrais 30 secondes de silence. T'es en mode brasse sur le plateau, tu vois ce que je veux dire. Et tu te dis, il faut que je trouve une solution. Donc t'es en train de refaire le texte en speed dans ta tête, tu dis, bon, ça fonctionne pas, j'arrive pas à retrouver. Tu regardes l'autre dans les yeux, t'es en train de lui faire comprendre, je suis en galère, mais t'inquiète, ça va aller. L'autre, il te regarde avec des larmes de sang, tu vois.
Aïe, aïe, aïe.
Et tu remixes, quoi. Tu remixes. Ouais, tu vois. Et puis tant pis. Et il y a quand même un truc extraordinaire dans le théâtre où t'es tellement dans le réel et dans le concret. Les gens, ils sont avec toi. Ouais. Ils sont avec toi. Ils adorent ces moments-là. Ils ont envie de rentrer chez eux ou en parler à la fin du texte. Ils disent, putain, t'as vu quand il a galéré, putain, c'était tellement marrant, putain. Et ça reprend, quoi. Et dès que tu reprends, ça, c'est passé, c'est oublié.
Radouane, t'as également joué dans Elephant Man. J'ai qu'une question, ouais, par rapport à cette ligne de ton CV. Il est comment de jouer Star?
Il est génial.
Sérieux?
Ouais, vraiment. Et je dis pas ça, genre, je suis, tu vois, ouais, je, parce que je déteste ces trucs-là et tout. Il est génial. Vraiment.
On en parlait tout à l'heure avec l'équipe de Burnout. Et ouais, j'aimerais bien le recevoir, mais on est en panique.
Non, tu sais quoi, je te jure, c'est toujours la question de l'image médiatique et, ouais, l'image de ce qu'on est vraiment dans la vie et tout. C'est un bonbon, c'est un nounours. C'est un mec hyper intelligent, hyper intéressant, humainement, il a été super dans le groupe, tu vois, il a été très présent, tu vois, il faisait des cadeaux aux techniciens quand on allait jouer, ça c'est très important, tu vois, on allait jouer dans un théâtre, il arrivait, il faisait des cadeaux aux techniciens du théâtre. Qui fait ça? Tu vois ce que je veux dire? Et même nous, dans l'équipe, tu vois, il était très attentif, il nous proposait des trucs, venez,
c'est un vrai gentil,
il te faisait, tu vois, il se mettait pas au-dessus, tu vois, il était pas dans un truc, je me mets au-dessus, etc., il se mettait au même niveau, voire même des fois, il se mettait en dessous. Et il y a une anecdote, une fois, où je me souviens, il m'a dit, n'hésite pas à me dire quand c'est... Parce qu'il découvrait, tu vois, vraiment le théâtre, tu vois, jouer. Il disait, n'hésite pas à me dire, ça me fait plaisir quand tu me donnes des retours. J'avais envie de dire, frère, je...
C'est pas moi qui vais donner des conseils à Joystar.
Ouais. Je suis son père, tu vois.
Ouais.
Mais,
donc très, très humble, finalement.
Très humble. C'est un gentil. C'est pas un... Et c'est un mec hyper intéressant et intelligent. Franchement, non, non.
J'ai lu, Radouane aussi, qu'on te proposait pas mal de rôles que j'appelle dits clichés. Le terroriste, je sais pas quoi, les trucs, ouais, un peu tout ce qu'on propose à Saïd Tagmaoui à Hollywood. Ouais. D'ailleurs, il est très critiqué pour ça, enfin bref. C'est pas frustrant parfois de devoir refuser des rôles parce que, on comprend bien, tu parlais d'adrénaline et d'une vraie jouissance que tu ressentais quand tu tournais. Donc, que ce soit un rôle dit cliché, d'un arabe de banlieue, blablabla, la racaille, le lascar, je sais pas quoi, tu restes quand même sur un plateau de télé, ouais, avec les techniciens, avec d'autres acteurs, avec un réalisateur. Donc, il y a cette première raison. Et il y a la deuxième raison, tu dois payer aussi tes factures. Ouais. Parfois, tu te dis pas, putain, mais en fait, j'ai envie de le prendre, ce rôle merde.
Des fois, c'est très dur. Parce que tu... En fait, c'est la question de la projection, en fait.
Il a croisé les bras, il s'est renfermé, c'est la question que je n'avais pas posée. Non, mais... Pour que les auditeurs visualisent.
Je quitte cet établissement. Non, il y a eu... En fait, c'est la question de la projection qui est violente. C'est qu'en tant qu'artiste, tu te dis, ok, si je fais ce rôle, peut-être que c'est ça qui va se passer derrière, où je vais avoir plein de trucs, ça va s'enchaîner, etc. Et, tout. Et j'ai une anecdote sur ça après. C'est ça qu'il faut savoir gérer. Quand j'ai commencé le théâtre, mon prof m'avait posé la question souvent de « Vous êtes où dans 10 ans ?» Et en fait, ça a changé toute ma perspective, de ma vision, etc., de ce que je pouvais imaginer du métier, où je me suis rendu compte que c'était un marathon. Et que la question, elle n'était pas de savoir ce que tu vas faire demain, mais ce que tu vas faire dans 10, 15, 20 ans. Et surtout, quand tu te retourneras, est-ce que tu seras fier de ce que tu as fait ou non ? Des fois, c'est dur, donc à cause de ce truc de projection, mais... On est responsable. J'essaie de peser mes mots. On est responsable, en fait. On parle souvent de communautarisme, etc. Et tout. Moi, j'ai un peu un truc où, pour moi, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Okay. Des communautés, il y en a partout. Le milieu du théâtre, c'est hyper communautariste, tu vois. Le milieu de la mode, c'est hyper communautariste, tu vois. Et à un moment, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces mots et se dire oui. Il y a des gens qui partagent un même désir, une même vision, qui se réunissent, mais pas pour se désolidariser du reste de la société, mais qui se réunissent parce qu'ensemble, ils réfléchissent et ils avancent et tout. On est responsable de l'image qu'on va renvoyer de nos pères, de nos mères, de nos sœurs et de nos pères PAIRS. Tu vois. Et quand tu choisis un projet, quand tu veux faire un projet, il ne faut pas se mettre cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nous, à se dire je suis le seul responsable d'eux. Il faut juste se dire ok, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que ma mère va être fière de ce projet ? Est-ce que ma mère va défendre ce projet ? Oui ou non ? Donc moi, il y a des questions que je me pose avant d'accepter un projet. Le premier, c'est est-ce que ma mère va comprendre ? Si elle ne comprend pas, c'est que c'est élitiste. Et ma mère, elle est d'une intelligence incroyable. Elle n'a pas eu la chance de faire beaucoup d'études. Mais je me souviens qu'une fois, on est parti au musée d'Orsay, elle et moi. Et puis on se posait devant un tableau de Courbet. Et je lui dis, toi, tu t'en penses quoi et tout de ce Je découvrais, tu vois, ce tableau-là en question. Et elle me dit, j'ai l'impression qu'il voulait dire ça. Mais en même temps, c'est marrant parce que... Donc, pas avec les mots, tu vois, que le milieu élitiste de la peinture, de l'art, avec un majuscule utiliserait. Mais je me disais, attends, c'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis. Et je vais lire la petite description. Et je vois que, je sais pas, ma mère, elle a sorti 30% de ce qu'il voulait faire, tu vois. Et t'en vas dire, c'est incroyable. La sensibilité que t'as, l'intelligence que t'as, en fait, on te l'a pas donnée. C'est toi qui a éveillé ce truc-là, tu vois, chez toi, toute seule. Et donc, il y a un peu ça. La première raison, c'est ça. Si ma mère ne capte pas, c'est que c'est élitiste. Et du coup, ça s'adresse pas. C'est pas de l'art pour le peuple avec le peuple.
Ouais. C'est pas populaire, finalement.
C'est ça, tu vois. Dans le sens noble du terme, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et est-ce que c'est rageant ? Il y a une fois où la directrice de casting de Clint Eastwood m'a contacté.
Ok, rien que ça.
tu vois, c'est un truc de ouf. Où elle me proposait le film qu'ils ont fait sur le Thalys. Tu sais, le.
Ouais, ouais.
Mais elle me proposait le rôle du terroriste.
Putain.
Donc j'ai dit non. Parce que déjà, d'une, t'as vu ma tronche, frangin.
Rien de terroriste.
J'ai même pas de la moustache. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le cliché que l'Occident a sur les Arabes, je ne suis
t'as rien de ça.
Pas ça.
Ouais.
Mais tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un vrai... Tu vois, il y a un narratif qui est très, très ancré en eux, quoi. Ce mec a un nom arabe, il a une tête d'arabe sur les photos.
Alors que t'es pas arabe.
Tu vois. Alors que je ne suis pas arabe, je suis amazigh.
C'est
ça. Mes deux parents sont amazigh, tu vois. Donc je suis encore moins l'archétype physique de ce qu'est un arabe, tu vois. Et tu dis non. Mais tu dis non aussi pour plein d'autres raisons. Quand tu vois American Sniper, t'as pas envie de dire oui à Clint Eastwood. Quand tu vois Gran Torino, t'as pas envie de dire oui à Clint Eastwood.
Tu vois, c'est frustrant.
Ça
doit être compliqué à gérer ça.
C'est très compliqué, mais pour plein de trucs. Moi, il y a des rôles que je refuse. Il y a un peu l'exotisme du mec de quartier qui cache son homosexualité, qui veut pas le montrer, etc. Ouais. Et en fait, t'as envie de dire, mais nous, en fait, on en est même plus là. Ouais. Nous, on est déjà très loin. Pourquoi vous êtes encore il y a 5, 6, 7, 10 ans derrière et tout ? Venez, on avance. Et si tu veux faire l'histoire d'un mec de quartier qui est homosexuel, pourquoi c'est un sujet si... Enfin, tu vois ?
Ouais.
qu'est-ce qu'on veut raconter. Moi, ça me pose pas de problème. Évidemment que dans les quartiers, il y a des homosexuels, des lesbiennes, des... Enfin, tu vois, mais la question, elle est pas là. La question, elle est de savoir qu'est-ce que tu veux raconter avec ça. Pourquoi est-ce que tu veux raconter cette histoire? C'est ça qui est important. Mais si tu le mets juste par principe, parce que tu as envie de raconter ce petit truc de blanc bourgeois, de l'exotisme dans les...
Parce qu'il y a un fantasme autour de ça aussi.
Ouais, tu vois, il y a un truc que tu as envie de dire. En fait, vous êtes déjà des arriérés, vous êtes has-been, en fait, déjà.
Nous, ouais, ça, c'est ringard, en fait.
Ouais, c'est ça. Beau. Vous êtes ringard, quoi. Donc...
Alors, pour faire le lien par rapport à ma question, et on va ouvrir la parenthèse, on la refermera après. Moi, je t'ai découvert dans la série de Nawal Madani, Jusqu'ici tout va bien, ouais. qui a été number one, je crois, dans plus de 20 pays, il me semble. Ouais, franchement, sur Netflix, ça a cartonné. Elle a écrit la série, elle l'a réalisée, elle a joué dedans. Donc, bravo à elle. Donc, toi, ton rôle, pour faire le lien avec ma question, tu joues le frère de Nawal Madani pour s'en sortir, deal, vend de la drogue, ouais. Clairement. Donc, c'est pas contradictoire avec ce qu'on s'est dit, mais toi, comment s'est passée la rencontre avec Nawal Madani? Est-ce que tu as passé un casting? Ça a été quoi tout le cheminement? Et pourquoi tu as accepté ce rôle dit cliché, entre guillemets, je mets des grosses
bien
guillemets,
sûr,
Radouane, versus les autres qu'on aurait pu te proposer? C'était quoi la différence?
Alors, pour te répondre d'abord par le truc de casting, j'avais passé le casting à la base pour les rôles de Ketchup et Mayo, qui sont les bras droits de.
Ouais, je vois très bien, ils sont drôles.
De Djibril Songa dedans, etc. De Ouma. Et en fait, après ce premier tour qui s'est plutôt bien passé, Nawal m'a contacté.
Ouais.
Donc la Dircast m'a contacté et tout, pour me dire en fait, on voudrait te proposer un autre rôle. Donc j'ai dit bah ok, pas de problème.
Lequel?
C'est vraiment plein d'étapes, hein, tu vas voir. Ouais. Et en fait, j'ai dit ok, pas de soucis, on fait comme ça. Et je suis parti au Mexique, parce que j'étais en tournage à Mexico avec une production américaine et anglais. Sorry. Guys, yeah. I don't have the time for you now.
Oreillette.
Et tu étais en train de me lancer. Je suis en train de, dans ma tête, j'ai trop de conneries à dire. Et en fait, il y a un truc où les quinristes qui m'ont dit, les Américains, quand je parlais avec eux, ils me disaient, c'est fou le cliché qu'en France vous avez sur les arbres. Eux, ils ont d'autres clichés, hein, tu vois, sur les Mexicains, sur les Afro-Américains, etc. Et tout. Ils disaient, c'est fou les clichés que vous avez sur les Arabes et tout. Nous, on n'a pas ça. Et je leur disais, mais c'est-à-dire et tout, parce que du coup, je discutais avec eux de ça, tu vois. Ils disaient, moi, t'es bon. Point, fin de conversation. On s'en fout de savoir. Et je suis revenu un peu avec ce truc de, ils ont raison.
Ouais.
Voilà, je suis bon, point. Enfin, pourquoi vous me saoulez, tu vois? Ça a participé à encore plus dire non.
Ça a débloqué un truc chez toi.
Ça a débloqué un vrai délire où je me suis dit, c'est terminé maintenant, je dirais plus oui. Et donc, quand je suis revenu de Mexico, le lendemain, j'avais le rendez-vous avec Nawal.
D'accord.
Et donc, avant ça, j'ai eu un rendez-vous avec un autre réal pour un projet et tout, où j'ai dit non parce que c'était vraiment hyper cliché, ce que ça renvoyait des musulmans, ce que ça renvoyait des arabes, ce que ça renvoyait, enfin voilà, etc. J'ai dit non, on y est. Et quand j'ai vu Nawal, il y a eu un truc où en fait je me suis dit, c'est une arabe, elle est productrice du projet, elle a écrit le projet, elle joue dedans, elle est showrunneuse du projet. Qui mieux qu'elle saura ce que c'est que d'essayer de déjouer au mieux les clichés qu'on peut avoir. Et donc, je l'ai rencontré. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Et du coup, elle m'a appelé donc pour le rôle du frère. Et quand je suis arrivé, j'étais en PL, je dis, ah, c'était pour ça le rôle ok. Alors, j'avais pas préparé ça, moi. Et ça s'est hyper bien passé.
Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il me semble que le rôle du frère, déjà, il a un rôle clé dans la série. Beaucoup plus de scènes que les deux, que Ketchup et Mayo. Donc toi, t'étais content finalement.
Et beaucoup plus deep.
Oui.
Tu vois, il y a
oui.
un truc de profondeur qui est plus intéressant. Ouais. Et du coup, il y a eu un truc où quand elle m'a proposé ça, je me suis dit, bah en fait, ouais, ce rôle, je veux le faire. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, tu fais lien avec toi. Je viens de quartier. Alors, j'ai pas vendu de la drogue, etc. Ouais. C'est pas ça le sujet, hein, tu vois, mais j'ai grandi qu'avec des grandes sœurs.
C'est vrai.
Que des grandes sœurs. Mère célibataire, père qui est parti. Mère célibataire, père qui est parti. Et la possibilité de tomber dans ces conneries-là, en fait, elle était présente dans ma vie, tu vois. Bon, heureusement, je suis jamais tombé dedans, tu vois, mais c'est facile. Et le rôle du frère, il y a eu un truc où, et c'est une scène où justement, elle lui dit, tu vends de la drogue. Il lui dit, non, je vole pas. Juste, je passe, je transite. Alors, c'est pas pardonnable, hein, mais ça en dit long sur son mécanisme aussi à lui de j'ai pas envie d'être ça. Mais c'est la seule possibilité que j'ai venant d'où je viens. Et c'est la scène avec la mère à la fin où il lui dit en fait j'avais juste envie de sortir de la merde et c'est la seule option que j'ai eue, quoi. Et ça, j'ai eu envie de le défendre. Ça, j'ai eu envie de le défendre parce qu'il y avait un truc où justement la profondeur et l'endroit de je m'en veux de faire ça, mais j'ai pas d'autre choix que ça. J'avais envie de le défendre. Ouais. Parce que j'en connais plein des frangins qui ont fait ça et des frangines et qui après se sont dit bah en fait j'avais pas envie, quoi. Mais la société, on me dit si tu vends de la drogue ou tu fais du sport.
C'est ça.
Et je suis pas sportif. Ouais. Donc il me reste quoi comme option, tu vois.
Ouais, je comprends.
Donc c'est pour ça que j'ai accepté.
Moi, clairement, là, ça va être un peu la minute faillotage. Et tu, sans mépriser les autres comédiens et le casting, tu sors du lot. Et je ne sais pas si c'est le conservatoire, ton talent, ton travail. Dans la série, il y a un truc chez toi. Est-ce que, Radouane, tu as été repéré après? Est-ce que tu as senti un truc c'est pas le bon mot, repéré. Est-ce qu'il y a eu plus de scénarios, plus de projets? Est-ce qu'il y a eu un déclic derrière de la part des professionnels de l'industrie audiovisuelle?
Il y a eu un déclic qui est à l'endroit de... À partir de ça, quand j'ai commencé à passer les castings et que j'arrivais, on me disait « je t'ai vu ».
Ah,
tu vois, ouais. Et en fait, ce truc-là, de passer d'acteur anonyme qui travaille, mais qui est anonyme, qui connaît personne, ce truc-là de t'arrives en casting et on dit « Ah, je t'ai vu dans ça, c'est super ce que tu fais. » Bah du coup, ça crée un truc de confort aussi dans ton chemin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans ton chemin en tant qu'artiste et tout.
Attends, deux secondes, ouais, je vais couper ce moment. Tu veux mettre la carte mémoire? Ah pardon, je croyais que t'arrivais pas, sinon tu lèves. Je vais couper, t'inquiète. C'est le plan dont on n'a pas trop besoin, donc t'inquiète.
Pas de souci, t'inquiète.
Pardon, désolé.
Non, tout va bien, tout va bien. Je vous déteste.
Bah, je vais laisser ça, je ne vais pas couper.
Non, mais ça m'a aidé. Et ça a créé un truc où du coup, il y a eu un peu une espèce de petite effervescence. Est-ce que j'ai eu plus de propositions par rapport à ça? Je ne pourrais pas te dire tout de suite, mais on verra, quoi. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours dit, hein, je préfère avoir la carrière de Funès. Elle a commencé à 40, 45 ans.
C'est vrai.
Et exploser tout. Tout kicker.
Il n'y a pas de règle.
Plutôt que la commencer à 16 ans et disparaître après avoir eu le César du meilleur espoir, tu vois.
Donne-nous un scoop. C'est saison 2. Signé, pas signé. Tu seras dedans, tu ne seras pas dedans.
Je vais te donner un scoop comme les darons, ils faisaient. Inch'Allah. Non, écoute, ils sont en train de travailler dessus.
Okay.
Ils sont en écriture, etc. Netflix est à fond. Nawel est à fond aussi. Elle fait son max et tout, vraiment et tout. Mais comme toute série qui explose et qui fonctionne bien, tu peux pas te foutre de la gueule de l'audience. Donc tu peux pas faire une saison 2 juste pour faire une saison 2. Si tu fais un truc, c'est qu'il faut que ce soit qualitatif. Donc elle travaille à fond dessus et tout. Et voilà, là, ils sont en pleine écriture et j'espère.
Ok, j'espère. Bah, on a hâte. Radouane, tu sais, on dénonce souvent le manque de diversité dans le paysage audiovisuel français.
Ouais.
Sous-entendu, pas d'arabe, pas de noir, blablabla, voilà. On le répète assez souvent, je pense. Maintenant, moi, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi les artistes, les talents, les entrepreneurs ne créent pas leur propre rôle, c'est-à-dire ne créent pas leur propre plateforme pour pouvoir proposer des vrais rôles modèles, des vraies figures pour les personnes issues de la diversité? Un ingénieur, un médecin, enfin, ou même une histoire d'amour entre deux personnes issues de la diversité, sans mettre en lumière leurs origines, leur religion. Comme on peut voir entre, je ne sais pas moi, un film avec Marion Cotillard ou je ne sais qui, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, genre les petits mouchoirs version...
Exactement. Ouais. Tu vois, des personnes qui réussissent, et je pense qu'il y en a assez, et le but de ce podcast, c'est aussi de mettre en lumière cette diversité, qui a un impact, un vrai impact positif. Mais tu sais, je pense un peu à... J'ai oublié son nom, c'est Tyler Perry, qui est un grand producteur aux États-Unis et qui a construit le plus grand studio de cinéma aux États-Unis. C'est un Afro-Américain. Et grâce à ça, maintenant, il peut... Black Panther, par exemple, il a été tourné dans son studio.
Okay, d'accord.
Et il essaye de produire de plus en plus de films où on met en lumière les minorités dont celle qui est afro-américaine, qui on propose des vrais rôles, mais lambda, quoi, et pas le rôle de l'afro-américain classique. Est-ce que c'est une faute d'argent, faute de talent, faute de cohésion, de compétences aussi
du...
Tu vois, les producteurs, les réalisateurs, oui, c'est assez élitiste.
C'est une vraie question. Franchement, c'est une vraie question. Je ne saurais pas te dire parce que j'ai pas. Enfin, je ne saurais pas te dire si je pourrais te donner des débuts de réponse, mais je ne suis tellement pas encore ancré à l'endroit des prods, des trucs comme ça et tout, pour avoir tous les enjeux, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui essaient. Mais à un moment, on est arrêté par une réalité qui nous dépasse totalement, qui est celle des décisionnaires tout en haut, et qui te disent on a besoin de diversité, ajoutons un rôle de voleur, par exemple.
Ok.
Et on dit ok, d'accord, mais est-ce qu'on peut changer les noms des rôles? Le rôle principal peut s'appeler Mokhtar, et le rôle du voleur, il peut s'appeler Fabien. Non, parce que tu comprends, il faut que ça respecte quand même ce truc-là. Je comprends pas pourquoi ça doit... Enfin, tu vois, bref. Ça, c'est des détails. je pense qu'on essaie. Je pense qu'il y en a plein qui essaient. Mais à un moment, il faut aussi avoir... Tu vois, tu parlais de Tyler Perry, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Est-ce qu'on a des Tyler Perry en France?
Ben, on a Nawal Madani, elle a commencé quand même avec la série finale.
Ouais, elle a commencé. Mais est-ce qu'elle est.
Son rôle, c'est une grande journaliste qui évolue.
Grosse boîte de prod où elle peut dire. Encore, ah, ouais. Je pose. Tu vois, c'est ça en fait. Les Américains, c'est un niveau. Tu vois, quand le mec dit je fais mon studio, c'est terminé. Il est tout seul, tu vois, il peut gérer son truc. Et je pense qu'il y a des gens qui essaient. Et justement, dans le travail d'écriture que Nawal a fait, je me souviens que assez rapidement, quand j'ai été pris pour le rôle du frère, elle m'appelait, elle me disait viens en écriture. Viens check si d'après toi c'est pas cliché ça. Viens check si d'après toi ça pose pas de problème, okay, pour notre communauté, si ça les dénigre, ouais, pas, etc. Et tout. Et quand elle parle de communauté, elle parle pas forcément que des Arabes ou des musulmans, mais vraiment la communauté qui est la minorité en fait, avec un M majuscule, tu vois. Et du coup, il y a eu ces conversations là. Et je pense qu'il y a un début d'une génération qui arrive et qui commence à dire non. Voilà ce que moi j'ai envie de jouer. Et à un moment. Quand il y a des direcasts, hein, qui me disent mais c'est trop dur de trouver des acteurs rebeux, renois, d'origine asiatique, chinois, japonais, peu importe, qui acceptent de faire ces rôles-là et tout, ça veut dire mais parce que en fait il y a d'autres possibilités. Nous on veut faire d'autres trucs. Et quand on va refuser tous et qu'ils n'auront pas d'autre choix que d'écrire d'autres rôles avec une vision positive de ce qu'on est, alors là ça aura bougé quoi. Mais d'abord faut dire non. Et c'est pour ça que je dis non. Mais ça passe par là, mais après, franchement,
c'est complexe, mais...
C'est hyper complexe, parce qu'il y a, franchement, il y a des rouages où il y a des trucs, des fois, qui t'échappent, et en fait, quand tu apprends que ça se passe aussi comme ça, t'as envie de dire, mais en fait, personne est suffisamment au-dessus du lot et puissant pour faire en sorte que...
Que ça change.
Que ça change si facilement. Ouais. Ce que tu disais, quoi. Pourquoi cette autrice, comment elle s'appelle, cette autrice, pardon, dont tu parlais tout à l'heure, qui...
Faizagen.
Ouais.
Ouais.
C'est quoi la raison? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas...
Ah, parce que femme racisée.
Voilà.
Elle est née en France, elle est française. C'est juste que femme racisée.
Voilà, femme racisée. Enfin, tu vois, il y a... Mais après, là, on rentre sur un truc. Non, mais tu vois, moi, ça me rend ouf. Il y a tellement de choses à déconstruire. Enfin, tu vois, l'espace médiatique, déjà, il est tellement, tellement pas représenté. Et on en a des gens talentueux, des gens intelligents, des gens qui ont des choses à dire dans les personnes issues de la diversité, etc. et tout. Et à un moment, voilà, il faut leur donner la place, quoi.
Radouane, tu es un artiste engagé. On le voit à travers tes réseaux sociaux. J'ai une question pour toi. Ouais. En France, pourquoi systématiquement, dès qu'il y a un problème dans le monde, la faim, l'inflation, la guerre, on demande aux artistes et aux sportifs racisés de prendre la parole? Il y a la faim dans le monde, Benzema, Mbappé, pourquoi ils s'expriment? C'est de leur faute. Il y a l'inflation, Benzema, Mbappé, Omar Sy. Il y a la guerre en Ukraine, Omar Sy, Mbappé. Non, moi, je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Est-ce que toi, tu ressens la même chose? Et pourquoi? Ma question, elle est simple, Radouane. Est-ce que tu penses qu'en tant que personnage public, sportif ou artiste, comédien, acteur, on doit avoir cette responsabilité de prendre la parole et de justifier, de choisir un camp ou je ne sais quoi?
C'est même pas on doit prendre cette responsabilité. On l'a déjà.
On l'a. Tu penses?
Ouais. On l'a, quoi. On est... Parlons, par exemple, des acteurs. On est payé pour parler. Notre métier, c'est d'être payé pour parler.
Oui, mais avec une épée Star Wars, ou enfin, je caricature un peu.
Non, ouais, bien sûr, mais non. En fait, on veut nous faire croire qu'un sportif doit être juste un sportif, qu'un artiste doit être juste qu'un artiste, qu'un journaliste ne doit être qu'un journaliste, qui peut pas avoir un point de vue sur une guerre, un rapport géopolitique entre deux pays, etc. Et tout. On dit non, mais toi t'es un journaliste de tel truc, etc. Tu peux pas parler de ça, tu connais pas, ou t'es un artiste, tu sais pas ce que c'est, ça, t'as pas étudié pour. On nous fait croire que c'est un endroit aussi élitiste, tu vois. Ouais. Il faut faire des études pour comprendre.
Pardon, excusez-moi, il m'engueule.
Et on veut nous faire croire qu'il faut avoir fait des études pour comprendre les choses. Que...
Non, pas forcément. Non, ils peuvent avoir un avis.
Oui, non, mais bien sûr.
C'est le donné, tu vois.
Parce que je pense qu'on est à un endroit de... Vraiment, c'est notre responsabilité à un moment de dire... ma voix, elle compte. À partir du moment où ma voix, elle compte, et je représente une minorité, si je sens que ma minorité allait attaquer, et quand je parle de minorité, ça peut être n'importe laquelle, hein, tu vois, je dois ouvrir ma bouche. Parce que le combat des uns est le combat des autres. Et qu'à un moment, la soif, l'importance de la justice, peu importe laquelle elle est, on est tous liés, tu vois, c'est convergent, en fait. Pouvoir dénoncer le l'homophobie ou le je sais pas, peu importe, l'islamophobie ou la grossophobie ou
l'antisémitisme, la misogynie,
tous ces trucs là en fait, on est ensemble, c'est convergent, et donc c'est important de parler, on est obligé,
c'est important. Radouane, je suis d'accord avec toi. Moi, la nuance que j'apporte là dedans ouais. c'est pourquoi on met la pression aux personnes racisées quand elles ne prennent pas la parole. À Omar Sy, à Benzema, à Mbappé, ils prennent cher dès qu'il y a un problème dans le monde. Versus, je vais pas citer des acteurs, est-ce qu'on demande à Pierre Ninet ou à Gilles Lelouch, je sais plus qui, de s'exprimer sur tous les problèmes du monde ? C'est ça que je veux dire. Et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ces acteurs-là.
Évidemment.
Et c'est pas de leur faute. Et tant mieux pour eux si on leur demande pas. Mais moi, ma question, c'est pourquoi aux personnes racisées, on leur demande de s'exprimer là où elles sont essentiellement là pour divertir. Si on leur demande de s'exprimer, et là je te rejoins, on demande à tout le monde.
Ouais,
pas qu'aux personnes racisées. Mon point, c'est ça.
Je pense que c'est le rapport de la France, quoi. Pourquoi est-ce qu'on demande... Bon, là, j'entre dans un truc hyper... Pourquoi est-ce qu'on demande aux musulmans à chaque fois de se désolidariser publiquement quand il y a des attentats, des actes de violence, de haine, etc. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de verbaliser publiquement qu'on se désolidarise de ça, puisque on n'a rien à voir avec eux, tu vois. On nous demande de faire ça. Mais on ne le demande pas, par exemple. Est-ce qu'on demande aux blancs bourgeois de se désolidariser de Gérard Depardieu ou de trucs comme ça. Il y a des gens qui ont signé les tribunes, ils se sont même pas fait lyncher et tout, alors que le mec, ce qu'il a fait, c'est immonde. Tu vois ? On leur demande pas ça. Mais parce que, encore une fois, c'est un rapport de. Je pense que c'est un rapport de pouvoir, quoi. Ouais. Vous devez dire, vous, musulmans, que vous n'êtes pas en accord avec ça. Pourquoi ? Est-ce qu'on demande aux blancs de manifester dans la rue et de se désolidariser des mouvements extrémistes qu'il y a en France qui manifestent à Lyon et qui crient la haine des musulmans, des arabes, des noirs, des chinois, des japonais, des juifs, etc. Non. En fait, si on le fait, on le fait. C'est comme tu dis, on le fait avec tout le monde. Et donc, moi, il y a vraiment un truc sur lequel j'essaie de plus en plus de réfléchir pour pouvoir un jour me dire que ce serait une réflexion commune et un peu plus générale, etc.
Toi, justement, comme tu choisis la voie de donner son avis et que tu as dit que c'était normal et légitime qu'un artiste partage son avis, quel message tu donnerais, toi, aux musulmans de France qui sont stigmatisés, victimes de racisme dans les médias, dans l'emploi, dans les logements? C'est une vraie question. Est-ce que toi, tu as un message un peu d'espoir, je sais pas, à leur partager? C'est très utopique et naïf, un peu, ma question, mais...
Non, c'est pas utopique et naïf. Non. C'est très dur. Quand tu vois le journal tel quel qui a écrit en disant qu'il y a un retour de la diaspora de 5 millions, par exemple, au Maroc, ça en dit long, en fait, de la violence, de l'islamophobie, du racisme qu'on peut vivre un peu partout en Europe, etc., ou ailleurs et tout. Je pense que la chose que j'ai envie de dire, c'est on est chez nous, en fait. On est chez nous. C'est pas... Mais quand je dis on est chez nous, c'est on est chez nous avec
point,
vous.
Point
c'est,
final.
C'est pas chez nous, c'est pas le c'est, enfin, tu vois, c'est chez nous, point. On n'est pas la génération de nos grands-parents ou de nos parents. On sait, c'est chez nous. Au même titre que c'est chez c'est Jean-Michel Dubois, au même titre que chez, c'est chez, je sais pas, n'importe quel autre. En fait, il n'y a plus de questions à se poser. On n'a plus à baisser la tête, on n'a plus à avoir peur d'être ce qu'on est, on n'a plus à avoir peur d'être musulman, on n'a pas à avoir peur de venir de quartier, de banlieue, de trucs comme ça et tout. Et si, si l'art, les bourgeois, etc., commencent à embrasser la culture street, alors c'est qu'en fait, ils vont nous embrasser aussi avec. Et si, si
je
on...
Je ne suis pas sûr, ça.
Non, il ne faut pas leur laisser le choix.
C'est quoi l'appropriation culturelle qu'il y a de plus en plus, franchement, c'est au secours. C'est,
bien sûr. Dis,
putain, mais en
bien
fait,
sûr.
C'est pas possible.
Mais il ne faut plus laisser le choix.
Il ne faut pas, faut pas laisser,
pas laisser le choix. Il faut vraiment faut aller au front avec ça. Et il ne s'agit pas d'aller au front violemment ou peu importe, mais c'est juste de se dire lisons, apprenons, ayons les codes et montons au front. Tu peux pas, un cerveau qui réfléchit, tu ne peux pas l'éteindre. Moi, c'est la seule chose que j'ai à dire. J'ai jamais... faut que je sois honnête. Hein. Mon engagement aujourd'hui, sans filtre comme ça, comme je suis sur les réseaux, etc., il est récent. Il est récent parce qu'il y a eu un chemin de déconstruction où à un moment, je me suis dit, mais en fait, non. En fait, moi, j'ai pas à me taire, en fait. J'ai pas à rougir, en fait, de bien défendre sûr. Telle cause. Ouais. J'ai pas à rougir, en fait, de prendre ce chemin-là, etc. Et si... Je ne sais plus qui a dit c'est au raciste de retourner en fascistan.
Ah, Camille, que j'ai reçu. Ouais. J'aime beaucoup Camille.
Voilà. Elle est raciste. Si la France, ça ne vous plaît plus parce qu'elle est melting pot et qu'elle embrasse toutes les cultures, toutes les religions, etc., bah partez de la France. Ouais. C'est vous, partez de la France. Nous, on l'aime, la France, comme elle est là.
Tu sais, avant, je disais, avec tout ce qui se passe, j'ai honte d'être français. Et maintenant, j'ai changé mon discours. J'ai dit plutôt, ah mais vous devriez avoir honte, vous.
Parce que vous représentez pas la France.
C'est ça. Mais je pense que ça vient aussi avec l'âge, la maturité, un certain détachement aussi, un certain recul. Mais c'est vrai qu'avant, je me disais tout le temps, j'ai trop honte d'être français, la réputation que les Français ont dans le monde, etc. Un pays de raciste. Mais non, en fait, non.
Non. Et en plus, tu sais quoi? Pour être honnête, hein, vraiment. Moi, je, pardon, je me suis éloigné, t'allais m'engueuler. Pour être honnête, vraiment, il y a eu un truc qui se joue, qui est très bizarre chez moi pendant très longtemps. Moi, quand on me demande, je dis, je suis marocain.
C'est vrai?
Ouais, vraiment. Je n'ai jamais dit je suis franco-marocain. Et alors, j'aime la France, hein. Je l'aime vraiment. Et j'adore ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle a apporté à ma famille, ouais. À mes proches. Vraiment, j'adore ça. Mais au fond de moi, vraiment, tripes, ouais. Dans mes tripes, aussi parce que la société m'a renvoyé des choses depuis que je suis jeune et à un moment, j'ai dû composer avec ça. Je suis marocain. Néanmoins, et ça, c'est assez incroyable, quand je suis à l'étranger, et qu'on me demande de quelle origine je suis ou d'où je viens, français. Quand on me demande, on me dit, mais tu viens d'où? De France. Et après, c'est parce que l'échange et la conversation se fait qu'à un moment, je dis, mais en fait, je suis d'origine marocaine et tout. Mais c'est très étrange.
Et ben moi, c'est le contraire.
Ah ouais?
Ouais, quand je suis à l'étranger, je dis pas I'm French. Parce que la question qui me saoule après, c'est You don't look French. Et ça, il n'y a rien de plus horrible. Franchement, Niel, le journaliste qui est mort ouais. De rire. Et non, je te jure, ça, je la supporte plus, cette question. Et ouais, du coup, comprends. Maintenant, c'est I'm voilà, Moroccan.
Ouais,
et,
ma tête.
Voilà. Oui, toi, tu passes avec ouais, ta tête.
Ça passe. Il n'y a qu'en boîte que
de Jean-Luc.
Je passe pas.
Ouais.
Tu vois. De Jean-Luc, t'as dit.
Oui, vous.
J'adore le blague que tu veux. Il y a Jean devant, quoi qu'il arrive.
Non, mais... fermons la parenthèse un peu politique. Ouais. Parce que j'ai envie qu'on conclue avec le cinéma, parce que t'es là pour ça. J'ai quelques questions. Avec quel acteur tu rêverais de jouer, toi?
Denzi.
Ah, tu l'as mentionné tout à l'heure, ouais, c'est un vrai trop.
J'adore.
Un vrai film d'action.
J'adorerais. Ou... Franchement, attends, je vais être honnête, sincèrement jusqu'au bout.
Vas-y.
Denzel. J'adorerais travailler avec lui. Mais s'il y a un acteur que j'ai envie de voir travailler, de qui je veux apprendre et avec qui j'ai envie de partager l'affiche vraiment d'un film, Joaquin Phoenix.
Ah, la classe, ouais.
Parce que je pense que je suis bien plus proche de cet acting-là, tu vois. Oui. Et qu'il est incroyable. Il sait tout faire.
Et avec quel réalisateur tu rêverais de travailler?
Terrence Malick. qui a fait Tree of Life, ouais, ouais. Qui a fait, j'adore travailler avec lui. Et c'est, j'adore vraiment.
Avec quel acteur tu refuserais de travailler ou actrice? On veut du clash, on veut du buzz, nous, qu'est-ce qu'il y a?
Avec quel acteur ou quelle actrice je refuserais de travailler? Bah, déjà, tous ceux qui sont dans des Me Too, dans des trucs sales, etc.
Affida Turner, imagine, tu réponds ça. Rien à voir.
Ouais. Non, tous ceux qui ont, pour moi, tous ceux qui ont des trucs problématiques ne devraient plus travailler. Donc, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Et c'est pour ça que je refuse de, c'est pour ça que j'ai refusé Clint Eastwood. Okay. Parce que, mec, t'es trop problématique, t'es raciste, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de défendre tes projets. Donc, avec quel acteur en France, il y en a pas mal. Hein. Oh, wow, il y en a pas mal. Actrice aussi, il y en a pas mal avec qui t'as pas envie de travailler. C'est la réalité. Hein. Si demain je travaille plus, c'est pas grave, boycottez-moi. Mais...
T'as évoqué tout à l'heure les Césars. J'aime bien poser la question aux invités, aux artistes. Demain, t'es nommé espoir masculin. Tu gagnes, il y a ton nom. Le César de l'espoir masculin est attribué à le César, le rasoir.
Le César.
Les restes. Le César de l'espoir masculin est attribué à Redouane.
Bah, je me lève pas parce que du coup, c'est pas moi.
Redouane, pardon.
Non, je rigole.
C'est quoi ton discours? Parce que je sais que les acteurs, vous aimez fantasmer sur le.
J'imagine même pas le nombre de
discours.
Fois j'ai fait
Oscar, discours. César.
Tu sais, franchement.
Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que si un jour ça arrive, je ressors ce montage-là, ce bout d'extrait direct.
J'utiliserai. Je remercierai ceux qui en premier, ceux qui n'ont pas cru.
Ouais.
Ceux qui n'ont pas été là, ceux qui ne m'ont pas soutenu, etc. Et ce n'est pas de l'aigreur. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste un truc de merci, parce que c'est parce que vous n'y avez pas cru ça que j'ai arrive. Encore plus charbonné. Parce que j'ai eu encore plus envie, cette fois, du coup, pour un orgueil, j'ai eu encore plus envie de montrer à quel point c'est possible. Et donc je pense que je commencerai par eux, après par ma mère.
Ouais, évidemment.
Parce que... Mais c'est pas le truc, tu sais, le truc qu'on a dans notre culture de la maman, parce que c'est le centre, évidemment. Mais ma mère, parce que depuis qu'on est petit, elle nous a ouvert des portes. Mais vraiment. Elle nous a ouvert des portes, elle nous a inscrits dans des bibliothèques, dans des sports, on a fait plein de trucs. Ma mère, tellement ouverte, mais c'est incroyable, elle est tellement ouverte. C'est pour ça que je te dis, la France, je l'aime. Parce que pour moi, la France, c'est celui du regard de ma mère qu'elle pose dessus, où elle ne se pose pas la question. Elle a des amis de n'importe quelle origine, elle a une amie, c'est une témoin de Jéhovah, c'est son amie de toujours, tu vois. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Petite daronne qui vient du bled, qui est amie avec une témoin de Jéhovah. Mais j'adore. Mais parce que pour moi, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est un délire. Non, mais c'est un délire. Vraiment.
Le temps que ça monte.
Ouais. Non, mais tu vois, non, mais c'est incroyable. Tu vois, il y a un truc que tu as envie de dire. Ok, what the fuck.
Jesus.
Non, mais à quel moment c'est arrivé? Et moi, je trouve ça incroyable.
Ouais.
Et c'est important, ça, d'embrasser. À partir du moment où tu as un être humain qui te.
Tu gueules.
À partir du moment où tu as un être humain qui vient et qui te respecte pour ce que t'es. Embrasse-le.
Redouane, les Césars, t'as 20 secondes. Après ta mère.
Vas-y, voilà. Non, mais la daronne, tu peux pas faire un sur la daronne. Je dirais. Genre, je te fais le discours.
Oui, pour allez, vas-y. Je sens que tu vas gagner un jour et je veux le ressortir, cet extrait.
Je remercie Mehdi, d'abord, voilà. Pour son podcast. Je remercie ceux qui n'y ont pas cru, parce que grâce à vous, j'ai charbonné de ouf. Je remercie ma mère pour son courage, sa bienveillance et sa délicatesse. Je remercie Méros pour leur puissance et leur indépendance. Je remercie ceux qui y ont cru et qui m'ont soutenu.
David.
David, Maurice Attias. Et je remercie mes frangins de m'avoir fait des italiennes pour les castings que j'ai dû passer.
Bon, bah, trop voilà. Bien. Trop bien, et Inch'Allah que ça arrive un jour. Inch'Allah. Il y a une dernière rubrique, une nouvelle rubrique. Tu as une question sous le tarbouche.
Ouais.
Ça peut venir d'un membre de ta famille, d'un ami, de quelqu'un du show business, d'un follower, d'un auditeur. Je ne te dis pas qui. Oh. Si tu refuses, tu ne dis pas la question et puis on arrête l'interview, c'est fini. Ça, de toute façon, c'est la dernière question. Si c'est tu lèves le tarbouche, tu es obligé de...
Je suis trop curieux. Bah,
vas-y, allez.
Okay.
Donc, je te laisse découvrir la question.
Par contre, c'est un vrai tarbouche. Un tarbouche de...
C'est le symbole du podcast.
Attends.
Très bien, merci. Donc, je te laisse lire à haute voix la question. C'est trop tard.
Alors, la question, c'est est-ce que tu es un don juan dans la vraie vie? Est-ce que je peux savoir qui a posé cette question?
Ça, on n'a pas le droit de le
dire. Pas du tout. Non, absolument pas. Soyons honnêtes, je suis un charmeur.
Ouais.
Je l'ai été pendant très longtemps, mais dans le sens où je charme tout le monde parce que j'ai chacun ses névroses et ses pathologies, j'ai besoin quand même, tu vois. Mais non, je suis pas du genre à vouloir additionner les conquêtes ou courir après des meufs, etc. Et tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis un amoureux de l'amour, vraiment. Okay. Mais c'est pas pour faire genre. Je trouve ça beau. Et c'est parce que je trouve ça beau que je trouve ça compliqué et que je galère sentimentalement. À qui veut bien l'entendre, s'il vous plaît.
Bah, les auditrices, envoyez vos CV, vos DM, je filtre. Comme ça, on te trouvera la femme de ta vie, ouais, Radouane.
Non, mais,
Radouane,
mais,
ouais, sans
non. E. Radouane sans E, R-A-D-O-U-N. Non, mais non, pas du tout. Et je souhaite à personne de l'être. Surtout après avoir vraiment travaillé ce qu'est la question d'un danger encore.
Bon bah écoute, Radouane, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
Mais viens, on fait 3 heures de podcast. Mais
franchement, j'aimerais trop. Bon, viens, tu reviendras.
On fait que des jeux maintenant. Que des jeux.
Tu reviendras, j'espère, pour présenter tes nouveaux projets. Je sais que tu vas en tournage très, très bientôt. T'as pris le temps de répondre et je suis super content parce que t'as un agenda très chargé. J'espère que t'as passé un bon moment.
C'était trop bien.
Bon bah super.
Vraiment très heureux.
Et on te souhaite vraiment une très bonne réussite dans tous tes projets. Beaucoup de tournages. Et puis on se dit à très bientôt, j'espère.
Bah ça c'est sûr. De toute façon, je suis dans ton dos maintenant. À chaque fois, tous les ans, je vais t'appeler, je vais dire viens, on fait un podcast.
Avec grand plaisir. T'es le bienvenu, c'est la maison.
Bah, c'était trop bien, merci.
À tous les auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, ce moment d'échange, n'hésitez pas à le partager à vos amis, vos parents, vos enfants, votre femme, votre mari, vos voisins, n'importe qui. Et vous abonner à la page Burnout sur Spotify. Je vous dis à très très bientôt et merci à tous.